Vous écoutez France Culture.
Midi 31 sur France Culture. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Tiraillé entre républicains et démocrates sur fond de shutdown, le nouveau congrès américain fait sa rentrée aujourd'hui, augurant une fin de mandat difficile pour Donald Trump. Hier, le président américain a prévenu que la fermeture partielle des administrations pourrait se prolonger encore un certain temps.
En Allemagne, après que 4 jeunes hommes originaires, notamment d'Afghanistan et d'Iran, ont été arrêtés par la police après avoir agressé une dizaine de passants, l'extrême droite bavaroise a décidé de constituer des patrouilles d'autodéfense.
Et puis surtout, comme elle le fait à chaque fait divers de ce type, depuis maintenant des mois, elle en a aussitôt profité pour marteler son message à la fois anti-migrant et anti-Merkel.
Dans cette édition également, la Chine qui a réussi aujourd'hui l'alunissage inédit d'un engin sur la face cachée de la Lune.
Cela fait plusieurs années déjà que Pékin se préparait à cette opération particulièrement difficile du point de vue technologique, une première mondiale qui vient surtout renforcer les ambitions spatiales de la République populaire de Chine.
En France, le gilet jaune Éric Drouet était toujours en garde à vue ce matin après avoir été interpellé la veille au soir à Paris pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable.
Oui, l'homme avait déjà été arrêté en réalité lors de l'acte 6 des manifestations pour port d'armes prohibées, en l'occurrence un bâton. Son avocat juge son arrestation et sa garde à vue totalement injustifiée et arbitraire et dénonce le harcèlement policier dont est victime son client. À 46 ans, Sylvain Faure, fidèle d'Emmanuel Macron depuis la campagne électorale, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de conseiller communication à la présidence à la fin du mois. Et puis invité de ce journal dans une vingtaine de minutes, Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, président de Pollingvox. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Disruption et troisième volet aujourd'hui avec la mémoire et nos invités. Comment préserver la mémoire du futur? Xavier Boissel, auteur de Capsule de temps, et Francis Eustache, qui a dirigé l'ouvrage collectif La mémoire au futur, seront nos invités à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. À chacun sa crise et ses mises en scène politiques plus ou moins habilement destinées à remporter la bataille de l'opinion publique. Aux États-Unis, au 13e jour du fameux shutdown, difficile encore aujourd'hui d'entrevoir la moindre issue du conflit responsable de la fermeture partielle des administrations fédérales. Hier, les discussions menées à la Maison-Blanche entre responsables démocrates et républicains se sont révélées une fois de plus stériles. Quand Donald Trump reste totalement inflexible sur le mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique, ses adversaires, tout aussi opiniâtres, ne cessent de lui réaffirmer leur refus catégorique de le financer. De sorte que cela pourrait durer longtemps, a lui-même lancé hier le président Donald Trump, avant de convier les responsables des deux bords à une nouvelle rencontre demain. Alors, il se trouve que c'est dans ce contexte que le nouveau congrès américain doit faire sa rentrée aujourd'hui. Un nouveau congrès notamment composé d'une chambre des représentants désormais contrôlée par les démocrates, ce qui augure une fin de mandat a priori difficile pour Donald Trump, car ce bras de fer autour de la construction du mur pourrait n'être que le prémisse de nombreuses autres batailles à venir, en premier lieu avec la promesse de multiples enquêtes parlementaires visant le locataire de la Maison-Blanche et son entourage. Fiona Mogadam a sollicité sur cette question Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis.
On peut penser que le comité du renseignement de la Chambre reprendra l'enquête sur la collusion avec la Russie. Il peut y avoir aussi des commissions d'enquête spéciales créées par la Chambre. Les démocrates de la Chambre sont très intéressés pour obtenir enfin les déclarations d'impôts de Donald Trump qui les a toujours cachées et dont on se demande bien pourquoi il les a cachées au public.
Quel est le risque pour Donald Trump? C'est de l'affaiblir seulement?
Oui, c'est de l'affaiblir, de le faire vivre dans une situation qui est déjà un peu celle qu'il vit actuellement avec le shutdown budgétaire, c'est-à-dire d'être reclus, enfermé à la Maison-Blanche, avec d'un côté des enquêtes de la Chambre des représentants qui viendront s'ajouter à l'enquête judiciaire du procureur Mueller, de le faire vivre systématiquement sous pression. Et sinon, ces enquêtes parlementaires peuvent aboutir à la production de documents qui pourrait être embarrassant. En ce qui concerne l'impeachment, comme l'impeachment est réparti entre les deux chambres, il faut le rappeler, eh bien, cet impeachment paraît donc totalement irréaliste, puisqu'il faudrait qu'en fait une vingtaine de sénateurs républicains changent de camp pour aboutir à la destitution du président. Néanmoins, on sait que c'est une perspective qui angoisse Donald Trump. Pour les démocrates, par contre, ce sera une arme à manier avec précaution, car il ne faut pas donner l'impression à l'opinion publique de mener une chasse à l'homme et de s'éloigner des sujets qui intéressent beaucoup plus les États-Unis, le pouvoir d'achat, les impôts. Donc une arme à manier avec précaution et qui de toute façon ne peut aboutir.
Voilà, Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, il répondait à Fiona Mogadam. L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul avait gravement nui à la réputation internationale du royaume, étendu ses relations avec les pays occidentaux, même si, en l'occurrence, Riyad continue de recevoir l'appui du président américain Donald Trump. Ce matin, au cours de la première journée d'audience, l'accusation a requis la peine de mort à l'encontre de 5 des 11 prévenus. L'Allemagne, une nouvelle fois secouée par des faits divers de nature à relancer inexorablement le débat autour des demandeurs d'asile. Après qu'un homme de 50 ans avec des antécédents psychiatriques eut foncé au volant de sa voiture sur plusieurs passants syriens et afghans faisant 8 blessés, c'était mardi dernier. Voilà qu'on apprend que quelques jours plus tôt, samedi soir, dans le sud du pays, en Bavière, ce sont cette fois-ci 4 jeunes hommes de 17 à 19 ans, originaires de Syrie, d'Afghanistan et d'Iran, qui sous l'emprise de l'alcool ont subitement attaqué et blessé 12 personnes. Du coup, dans cette ville d'Amberg, l'extrême droite locale a aussitôt saisi l'opportunité pour y organiser des patrouilles d'autodéfense. Une correspondance à Berlin, signée Ludovic Piétenu.
Ils portent des gilets rouges, la couleur et le sigle du NPD, le Parti National Démocrate, un mouvement néo-nazi. Ils patrouillent et créent, comme on peut le lire au dos de leur gilet, des zones de protection. Ils sont une poignée, photographiés puis filmés avant-hier dans les rues de cette ville bavaroise de 50 000 habitants. Sur la page Facebook d'une branche locale du NPD, une vidéo montre cette patrouille à l'œuvre, à grand renfort d'une musique qui paraît sortie d'une super production hollywoodienne. Le maire de la ville s'est déclaré choqué, il a informé la police de la constitution de ces milices d'autodéfense et a reçu lui-même plusieurs messages de menaces. Le parti d'extrême droite AFD et la mouvance nationaliste dans son ensemble saisissent ce nouveau fait divers pour marteler leur message contre les demandeurs d'asile et exigent leur expulsion. Dans les faits, pour 3 des 4 auteurs, elle n'est pas possible juridiquement, mais le ministre fédéral de l'Intérieur, Horst Seehofer, originaire de Bavière, là où se sont produites ces agressions, a préféré tenir un discours de fermeté plutôt que d'apaisement, il réaffirme publiquement son souhait de faciliter l'expulsion des demandeurs d'asile coupables de crimes ou de délits.
C'est le plus haut diplomate nord-coréen en poste en Italie. L'homme dirigeait l'ambassade de Corée du Nord à Rome, car l'homme a disparu. Plus exactement, il a fait défection et se cacherait désormais avec toute sa famille. Il aurait par ailleurs demandé l'asile à un pays occidental, même si Rome affirme de son côté ne pas être au courant d'une telle demande. Alors, cet homme avait remplacé son prédécesseur à l'ambassade en octobre 2017 et son prédécesseur expulsé à la suite du 6e essai nucléaire nord-coréen. C'est donc une nouvelle défection de très haut niveau et surtout très embarrassante pour le régime de Pyongyang. Les précisions à Séoul de Frédéric Ojardias.
Le diplomate nord-coréen Cho Song-il, 48 ans, a demandé asile à un pays occidental il y a plus d'un mois, affirme ce matin à Séoul le quotidien Chungang. Les raisons de sa fuite ne sont pas encore connues. Selon la presse sud-coréenne, Cho Song-il avait reçu l'ordre de rentrer à Pyongyang, mais il a préféré s'enfuir avec sa femme et ses enfants. L'homme avait sans doute un rang très élevé au sein de la nomenclature nord-coréenne. Il est en effet très rare que le régime autorise ses diplomates à être accompagnés de leur famille, une mesure destinée à empêcher les défections. L'agence d'espionnage sud-coréenne a confirmé la disparition. La dernière défection nord-coréenne de haut niveau est celle de Tae Yong-ho, vice-ambassadeur à Londres, réfugié en Corée du Sud en 2016. Tae Yong-ho vit depuis caché à Séoul, sous la protection des services secrets, de peur des représailles du régime.
Correspondance à Séoul du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Ojardias. Sur les premières photos, on aperçoit un homme les pieds dans l'eau transportant un écran de télévision. Sur d'autres, des enfants prennent la pose avec des licornes en plastique rose indigo censées résoudre la quête de l'amitié. Des images qui pourraient prêter à sourire, sauf que ces cadeaux n'ont pas tombé du ciel mais déposés par la mer au large d'une île des Pays-Bas sont en réalité les premiers déchets échoués après qu'un navire pris dans une tempête a perdu pas moins de 270 conteneurs dans les eaux de la mer du Nord, dont 4 au moins renferment une substance potentielle dangereuse, sans compter les risques bien réels qui existent aujourd'hui pour la sécurité maritime en cas de collision, une catastrophe qui risque par ailleurs d'avoir des répercussions pendant de longs mois en fonction de la dérive des conteneurs au gré des courants. Alors au-delà de la catastrophe elle-même, ces porte-conteneurs, véritables machines de la mondialisation, en ce sens qu'ils ont ouvert un marché gigantesque en boostant les échanges commerciaux, apparaissent aujourd'hui au fond comme le symbole de la fabrication industrielle sans limite. Et parmi les méfaits de cette mondialisation, il est un produit souvent pointé du doigt, le plastique, ou plus exactement les déchets en plastique, source d'énormes pollutions, que ce soit se rejeter directement dans la mer et qui tuent les animaux qui les ingurgitent, ou bien se jeter dans les égouts et qui bloquent les canalisations, risque parfois de provoquer des inondations catastrophiques, comme c'est le cas par exemple en Inde. Et c'est la raison pour laquelle, en juin de l'année dernière, l'État du Maharashtra, avec pour capitale Bombay, a mis en place une interdiction stricte à la fois de la production et de l'utilisation de différentes sortes de plastiques à usage unique. Alors ce n'est pas le premier État du pays à prendre ce genre d'initiative, mais avec quel résultat? Notre correspondant Sébastien Farcy s'est rendu justement à Bombay pour voir comment cette mesure était réellement appliquée.
Ravid Jattaré, l'inspecteur municipal du marché de Kourla dans le nord de Bombay, réalise son contrôle quotidien pour s'assurer que les commerçants ne possèdent pas de sacs en plastique léger interdits. Chez le boucher, nous lui montrons de grands sacs à l'aspect suspect vendus pour une petite somme.
Ces sacs sont autorisés, ils comprennent du plastique, mais au bout de quelques mois, ils commencent à se biodégrader.
Dans ce marché, la loi est donc bien respectée. Il faut dire que l'amende est sévère. 5000 roupies, soit 60 euros, cela représente le tiers du revenu mensuel moyen d'un Indien. Les commerçants, eux, disent comprendre.
Cette loi est bonne. Au début, les gens râlaient. Maintenant, ils apportent leurs sacs en toile ou nous leur en vendons. Nous n'avons donc plus à payer pour les petits sacs plastiques.
Mais sorti de cet espace bien contrôlé, l'anarchie de Bombay reprend ses droits. En face du marché, par exemple, un commerçant vend des verres et des assiettes en plastique blanc censés être interdits. Et plus loin, deux vendeurs ambulants emballent leurs fruits dans de petits sacs plastiques noirs bannis. L'un d'entre eux, le regard fuyant, se justifie.
Qu'est-ce que je peux faire? Les clients ne veulent pas de papier journal. C'est pas pratique à porter quand ils prennent beaucoup de fruits. Donc j'utilise ces sacs. Si je vois la police, je pars en courant.
L'association de producteurs de plastique affirme que cette interdiction soudaine et sans préparation a affecté 10 000 usines dans la région. Elle soutient qu'il faudrait plutôt renforcer la filière de récupération et de recyclage du plastique plutôt que de l'interdire. Il n'empêche, selon Staline Day, directeur de l'ONG environnementale Vana Shakti, les bénéfices sont déjà visibles.
Les déchets plastiques de la région sont déversés dans les mangroves, ce qui tue ces plantes. Or, nous constatons que ces déchets ont beaucoup réduit depuis cette interdiction.
La mer au large de Bombay est l'une des plus polluées du monde selon une compilation d'études mondiales publiée l'année dernière. Et le plastique est la première source de cette pollution.
Voilà, reportage à Bombay, signé du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy. C'est une première mondiale ce matin. Un engin spatial s'est posé sur la face cachée de la Lune. Cela n'était jamais arrivé puisque pour l'instant, seule la face la plus proche de la Terre avait été explorée. Et cette prouesse, on la doit à la Chine. Pour l'Empire du Milieu et ses ingénieurs, c'est surtout une nouvelle avancée donc dans sa conquête spatiale. Il faut dire que les ambitions de Pékin en la matière sont sans limite. Et pour cela, le pouvoir chinois s'est même donné un agenda très précis. Les explications à Shanghai d'Angélique Forget.
2045, c'est à cette date que la Chine doit devenir la première puissance spatiale du monde. Pour y parvenir, plusieurs projets sont en cours. D'abord, une grande station spatiale doit voir le jour en 2022. Les Américains, Européens et Russes ont toujours refusé que la Chine ne participe à la station spatiale internationale. Qu'à cela ne tienne, Pékin prévoit de construire la sienne. 8 ans plus tard, en 2030, c'est une base lunaire qui devrait être créée. Elle accueillera dans un premier temps des robots, puis des humains. Autre projet, autre destination, la planète Mars. La Chine veut devenir la première à ramener sur Terre des échantillons de la planète rouge. Mais son rêve le plus fou, c'est peut-être celui d'une centrale solaire spatiale, car l'idée de la Chine, c'est d'exploiter l'énergie partout dans notre système, près du Soleil, mais aussi tout type de ressources naturelles que possèdent les astéroïdes. L'agenda de Pékin pour sa conquête spatiale voit loin, s'étend sur plusieurs décennies, un projet qui tient à cœur au président chinois Xi Jinping, qui voit dans la conquête spatiale un symbole du pouvoir chinois, un moyen d'accomplir son rêve chinois, son projet de renaissance de la nation chinoise.
Figure médiatique autant que controversée des Gilets jaunes, Éric Drouet, interpellé hier soir près des Champs-Élysées à Paris, a été placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Alors c'est la deuxième fois en réalité que ce chauffeur routier, l'un des initiateurs de la première mobilisation nationale du 17 novembre, se retrouve ainsi interpellé par les forces de l'ordre, d'où les réactions indignées dès hier d'une bonne partie de l'opposition qui voit une forme d'acharnement et même pour certains de harcèlement. L'avocat d'Éric Drouet évoque lui une arrestation totalement injustifiée et arbitraire. Quant au gouvernement et à la majorité, il salue au contraire cette interpellation, la justifiant par la nécessité de respecter l'état de droit, comme l'a rappelé ce matin le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire chez nos confrères de France Inter.
Ça s'appelle le respect de l'état de droit. Et le respect du peuple, c'est respecter l'état de droit. Quand quelqu'un organise une manifestation alors qu'elle n'est pas déclarée, eh bien il ne respecte pas le droit. On en tire les conséquences.
Mais il aurait dû être arrêté ou interpellé bien avant dans ces cas-là. Et d'autres avec lui.
Il a déjà été
interpellé. Et il n'y a pas assez de place dans les commissariats et les prisons pour interpeller tous ceux qui ont manifesté sans en avoir demandé l'autorisation.
Moi, je crois profondément au respect de l'ordre. Et je considère que la meilleure façon de défendre le peuple, c'est de défendre l'ordre, les règles, la loi, l'état de droit.
En annonçant lors de ses vœux lundi soir qu'il prendrait bientôt sa plus belle plume pour écrire aux Français, Emmanuel Macron savait-il que son conseiller communication, chargé notamment de ses discours, ne serait pas nécessairement disponible pour lui tenir le stylo. Hier, Sylvain Faure a en effet annoncé qu'il quitterait l'Élysée à la fin janvier, tout en précisant qu'il souhaitait, je cite, s'orienter vers d'autres projets. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors ce départ de Sylvain Faure, après celui de Gérard Collomb à l'automne dernier, semble toutefois mettre une fois de plus en lumière, sinon la solitude du chef de l'État, du moins la fragilité d'un président qui avait choisi de ne gouverner qu'avec une poignée de fidèles, lesquels, en l'occurrence, semblent tous avoir été dépassés par une affaire, le fameux scandale Benalla.
Oui, parce que Sylvain Faure, c'est un très proche du président. Pierre angulaire de la communication pendant sa campagne. Il a ensuite écrit ses grands discours. Puis, il a pris à reculons la tête du service communication de l'Élysée à la fin de l'été. Il fallait exfiltrer Bruno Roger Petit après le premier volet de cette affaire Benalla. 2 ans et demi de loyaux services. Officiellement, ce normalien de 46 ans s'en va pour des raisons personnelles. Mais pour Edoui Plenel, le président de Mediapart, invité des matins de France Culture aujourd'hui, l'explication est déjà toute trouvée.
Sylvain Faure, qui je crois est un honnête homme, ne peut pas assumer plus longtemps, je le pense, de mentir tout simplement, car nous n'en sommes pas à la deuxième, nous sommes déjà à la troisième affaire Benalla. Il n'y avait soi-disant pas de contact entre l'Élysée et Monsieur Benalla. Nous avons révélé qu'il continuait à avoir lieu directement entre le président de la République et cet homme mis en examen pour violence volontaire. L'Élysée n'a pu que le confirmer en prétendant qu'il ne s'agissait que de 2 messages cet été. Nous allons voir la suite et nous verrons qu'il ne s'agit pas que de 2 messages cet été.
Pour l'instant, l'Élysée ne communique pas sur ce départ, mais on peut bien sûr penser qu'il fragilise le président. Il l'oblige en tout cas une nouvelle fois à réorganiser ses services, sachant que d'autres départs semblent se profiler. On parle là d'Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, mais aussi d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée.
Merci Rosalie Lafarge.
Midi presque 50 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Et invité de ce journal en direct et en studio avec nous aujourd'hui, Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, président de la Société d'études et de conseil, Pollingvox. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés en studio pour vous interroger, Steven Goyer. Bonjour à vous.
Bonjour Thomas.
Une première question, monsieur Sainte-Marie. Nous venons d'évoquer la démission de Sylvain Faure. Dans quelle mesure ce départ met-il ou non en difficulté Emmanuel Macron? Et surtout, comment interprétez-vous ce énième exode?
Alors le départ de Sylvain Faure, il faut bien dire, ne va pas beaucoup émouvoir les Français, puisqu'en réalité personne ne le connaît dans le grand public. Et que par ailleurs, le fait que un directeur de la communication s'en aille quand la personne dont il s'occupe de la communication est à 27% de popularité, a des traits d'image absolument catastrophiques d'après les sondages dans l'opinion, eh bien si on est en quelque sorte jugé au résultat, on voit bien que là il y a effectivement un gros problème. Que par ailleurs la détestation dont fait l'objet Emmanuel Macron dans une partie de l'opinion va bien au-delà d'une simple critique des résultats, et qu'il y a toutes sortes de traits d'image qui sont, je dis pas que c'est du tout que c'est la faute de Sylvain Faure, mais qui sont accolés désormais au chef de l'État, qui sont en termes de communication en tout cas une véritable catastrophe.
Et justement, Jérôme Sainte-Marie, Sylvain Faure, il n'aurait tenu que quelques mois à son poste. C'est plus compliqué aujourd'hui d'assurer la communication de l'Élysée.
Oui, parce que vous savez, un directeur de la communication, c'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui est censé avoir des idées géniales. C'est avant tout quelqu'un qui doit contrôler la parole de son client, que ce soit un chef d'entreprise ou un homme politique, et a fortiori le président de la République. Ça n'a jamais été très facile d'imposer à un chef de l'État ou à un ministre de se taire, tout simplement, ou de contrôler, d'utiliser certains canaux de communication. Mais aujourd'hui, c'est très difficile pour deux raisons. D'une part, parce que les possibilités d'expression, par exemple sur Twitter, sont infinies. Et personne ne peut empêcher un chef de l'État d'avoir, par exemple, c'est pas le cas, Emmanuel Macron ne tweete pas particulièrement, mais en tout cas, les occasions de s'exprimer sont très fortes, et y compris les occasions, par exemple, d'aller au contact lors d'un déplacement. Ça, Emmanuel Macron aime bien le faire. Et c'est encore plus difficile à faire dans le cas d'Emmanuel Macron, il est arrivé très jeune, et grâce à un talent extraordinaire, donc au pouvoir, et que donc j'imagine qu'il est relativement peu porté et à l'autocritique, et surtout à la discipline par rapport à un directeur de la communication.
Et justement, sur cette question de l'autocritique, Emmanuel Macron, il doit envoyer une lettre à tous les Français d'ici la mi-janvier. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant pour essayer de retourner la situation à son avantage?
Alors, cette histoire de lettre, ça nous rappelle bien sûr la lettre à tous les Français de François Mitterrand, qu'il avait fait, je crois, juste avant sa réélection. Ça devait être donc avant la réélection en 1988. Donc c'était une très longue lettre. Comme l'avait dit à l'époque Jean d'Ormesson, cette lettre n'est pas là pour être lue, elle est là pour être là justement. C'est-à-dire que c'était très long, ça n'avait absolument aucun intérêt d'ailleurs de mémoire, mais ça montrait en tout cas que le président de la République s'adressait à chacun. C'est de la communication pure. Là, ça n'aura d'intérêt que s'il annonce, que s'il y a un contenu. Que s'il annonce un changement, par exemple, ou bien une forme de contrition. Rien dans l'allocution présidentielle le 31 décembre n'annonce ni un tournant, ni la moindre autocritique. Donc je ne sais pas très bien, effectivement, pour l'instant, je suis relativement dubitatif sur cette initiative.
Il y a une idée aussi qui fait son chemin du côté de la majorité, c'est celle d'un référendum avec plusieurs questions posées aux Français sur leurs institutions. Pour vous, c'est une volonté réelle de renouer avec la parole populaire ou un coup politique, un moyen de court-circuiter la demande des Gilets jaunes d'un référendum d'initiative citoyenne?
Comme souvent en politique, il faut regarder un petit peu l'histoire récente. Il y a eu là aussi, François Mitterrand avait, pour sortir de la crise de 1984, liée à aux mobilisations sur l'école privée ou sur l'école libre, avait annoncé un référendum sur le référendum. C'est-à-dire un référendum destiné à savoir si on pourrait régler des questions institutionnelles par référendum. Alors, ça n'avait pas abouti, cette idée-là, mais il avait gagné comme ça quelques mois de répit où on avait beaucoup débattu là-dessus. Il y a un autre exemple de référendum, c'est le référendum sur les institutions qu'avait initié le général de Gaulle en 1969. C'était sur la réforme du Sénat et c'était également sur la décentralisation. Et l'ayant perdu, le général de Gaulle avait renoncé au pouvoir, avait démissionné. Tout le problème, et ça cet exemple de 69 l'illustre, c'est que pour les référendums qui n'ont pas un contenu très important aux yeux des Français. Comme l'avait, par exemple, il y a des référendums que les gens prennent vraiment au sérieux, par exemple sur la question européenne. Mais sur des référendums sur des questions institutionnelles, le risque est immense que les Français ne jugent plus que l'émetteur du référendum, c'est-à-dire le président de la République, et que ça devienne un plébiscite ou au contraire un désaveu par rapport à celui au président de la République.
Donc on est quand même assez loin du propos
des Gilets
jaunes.
Donc c'est quelque chose d'extraordinairement risqué que de faire un référendum aujourd'hui quand les trois quarts des Français expriment une mauvaise opinion de vous.
On l'a dit, l'un des porte-parole des Gilets jaunes, Éric Drouet, a été interpellé hier soir. Il est toujours en garde à vue et ça fait beaucoup réagir avec des dénonciations aussi bien du côté insoumis que du Rassemblement national. La théorie d'Emmanuel Macron sur les blocs progressistes contre blocs populistes, est-ce qu'elle se vérifie en ce moment ?
Rapidement.
Le discours sur le progressiste contre populiste était pratique pour Emmanuel Macron dans la mesure où les populistes, si on les appelle comme cela, étaient divisés de manière irréductible, notamment entre Rassemblement National et France Insoumise. Le gros problème pour Emmanuel Macron, qui dirige un bloc très cohérent, mais également minoritaire, celui qu'il appelle, lui, les progressistes, 25-30% des Français au maximum, c'est que à l'occasion de la mobilisation des Gilets jaunes, sur les ronds-points, mais plus encore dans les sondages, on a vu converger tous ceux qui s'opposent à ce bloc supposément progressiste, et ça c'est une majorité. Donc je pense qu'effectivement, c'est ce qui est annoncé d'ailleurs par les vœux présidentiels, on est passé maintenant dans une période de grand durcissement du pouvoir au niveau policier, judiciaire et peut-être même au niveau de l'information. C'est ce qu'a annoncé le président de la République.
Et on terminera là-dessus. Merci Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur, je le rappelle, d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Steven Gouaillet. On termine avec un mot de météo. De larges éclaircies sont attendues dans le sud. Sur la moitié nord, le temps sera sec mais souvent chargé avec du vent près de l'Atlantique, parfois même quelques ondées près de la Manche et des frontières. Les températures en baissent. Elles seront généralement comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Florence Turme pour le prochain journal de la rédaction.